Écrire ne veut pas dire comprendre le fonctionnement. Vous voyez, hein, on peut comprendre, décrire les circuits, ça passe par ci, ça passe par là, un tel est connecté comme ci, un tel comme ça. Jamais ça ne recouvrera le contenu. Or, le cerveau, en plus, utilise très probablement le hasard en partie dans son fonctionnement. Donc, si vous voulez, jamais on ne pourra réduire le fonctionnement cérébral d'un humain à la simple description de sa connectique. La liberté et la créativité exercent toujours. Et on ne pourra jamais la résumer à un schéma. Jamais.
Donc je m'appelle Pierre Janin, je suis directeur de recherche à l'INSERM. J'anime une équipe de recherche INSERM qui fait partie du laboratoire du traitement et de signal de l'image. Et on est à la faculté de médecine ici.
Je m'appelle Marc Vérin, je suis professeur de neurologie, chef du service de neurologie du CHU de Rennes, et je m'occupe je dirige le centre expert Parkinson pour la région Bretagne, et je dirige une équipe de recherche qui s'appelle EA4712, comportement et noyaux gris centraux.
La stimulation cérébrale profonde, c'est une technique chirurgicale qui a été inventée par un neurochirurgien français il y a une trentaine d'années à peu près, et qui consiste à implanter dans le cerveau des patients atteints par exemple de troubles moteurs, troubles neurologiques, hein, comme la maladie de Parkinson. Donc implanter des petites électrodes qui sont comme des petits spaghettis, hein, rigides, métalliques, qui stimulent des structures profondes au milieu du cerveau. Et quand on stimule électriquement ces petites structures, magiquement, les troubles moteurs s'arrêtent. Alors, ce n'est pas une guérison, parce que la maladie reste, mais les symptômes de la maladie s'arrêtent par cette stimulation.
La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui touche une structure précise du cerveau qui s'appelle la substance noire, qui est située à la base du cerveau et qui contient des neurones dont le neurotransmetteur est la dopamine. Voilà. Et en fait, ces neurones projettent leurs axones. Donc les prolongements de ces neurones vont remontent dans chacun des hémisphères cérébraux et vont influencer une circuiterie qui a à voir essentiellement avec tout ce qui est motricité automatique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on fait sans y penser. Par exemple, la marche. Quand vous marchez, vous n'avez pas besoin de penser que vous marchez. Le programme se met en route tout seul. Au début, on l'apprend, hein, vers l'âge de 12 mois, de manière consciente. Et puis ensuite, ça devient non conscient, automatique. Voilà. Et donc, toute cette activité automatique, qui en fait représente 90% de nos activités dans la vie courante, hein, ce que l'on fait sans y penser, c'est ce qui nous permet d'ailleurs, qui libère la surface du cerveau, le cortex, pour faire des choses conscientes et non conscientes. Donc on peut parler ou chanter en marchant. Ou philosopher même, voilà. Et donc c'est grâce à cette circuiterie. Et la dopamine, c'est elle qui permet à cette circuiterie de fonctionner normalement. Donc, dans la maladie de Parkinson, comme c'est une dégénérescence des neurones dopaminergiques, donc il faut qu'il y ait la dopamine, cette circuiterie ne fonctionne plus et les patients sont très lents dans leur mouvement et sont en fait condamnés en quelque sorte à penser tout ce qu'ils font. Ils ne peuvent plus faire deux choses à la fois, ils ne peuvent plus marcher et parler. Soit ils parlent, soit ils marchent. La technique de stimulation cérébrale profonde, ça consiste à placer dans le cerveau, dans des régions bien déterminées, des électrodes qui sont inaltérables, qui sont en platine, qui sont reliées à un stimulateur et qui, lorsqu'on met en route le stimulateur, permet de corriger des anomalies de circuiterie que l'on connaît bien dans telle ou telle pathologie. En particulier, enfin, c'est ça qui a permis de créer cette technique, la maladie de Parkinson.
Alors, par exemple, à Rennes, c'est une procédure qui est réalisée sur à peu près une quarantaine de patients par an. Et il y a à peu près une quinzaine de centres en France qui la font, cette procédure chirurgicale. Donc oui, c'est une procédure qui est assez c'est, tout est relatif, hein, qui est courante et qu'on fait depuis, je vous dis, depuis, mettons, une vingtaine d'années à peu près en routine. C'est aussi une procédure qui est en expansion croissante parce qu'on l'utilise pour d'autres types de maladies comme des troubles psychologiques, par exemple, donc des dépressions sévères. On commence à l'utiliser pour l'épilepsie, pour de la dystonie, donc sont d'autres troubles moteurs, et puis pour des maladies comme les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et aussi pour le syndrome de Gilles de la Tourette.
En fait, on connaît de mieux en mieux les circuits cérébraux et de quelle manière ils dysfonctionnent dans telle ou telle pathologie. Et donc, lorsque un circuit est bien identifié comme étant fonctionnement anormalement dans une pathologie soit motrice, soit psychiatrique, quand un circuit est identifié, ça peut devenir une indication nouvelle de la stimulation cérébrale profonde. Et donc, c'est vrai que c'est, disons, cette dernière décennie, un certain nombre d'études ont été menées chez l'homme pour, grâce à cette technique, corriger les symptômes ou améliorer des pathologies psychiatriques qui étaient jusqu'à présent résistants à toutes les techniques dont on disposait, en particulier médicamenteuses.
C'est une procédure qui marche, mais qui a des effets secondaires. Et dans les effets secondaires, il y a différents effets qui ont été recueillis chez les patients, hein, qui sont opérés. Ça va d'effets assez, assez simples à comprendre, comme par exemple des fourmillements dans les membres supérieurs. Mais il y a aussi des effets secondaires qui sont plus psychologiques. Par exemple, de l'apathie chez les patients qui apparaît, ou des problèmes de reconnaissance d'émotions, ou éventuellement même des tendances plus fortes au suicide, voire même il y a eu aussi des addictions au jeu qui sont apparues chez certains patients qui ne jouaient pas du tout. Alors ça, c'est assez étonnant, ça montre la richesse du cerveau, hein. Les patients, avant l'intervention, n'étaient pas du tout joueurs. Une fois qu'ils ont commencé à stimuler, ils se sont mis à jouer au casino, à jouer aux cartes, mais de manière compulsive.
En fait, les structures dans lesquelles on place les électrodes ont... En particulier l'une d'entre elles qui s'appelle le noyau subthalamique, qui est la cible qui est recommandée lorsque vous traitez les symptômes de la maladie de Parkinson. Ces cibles qui sont... Celle-ci était extrêmement petite, elle fait 4 mm de large et 4 mm de haut et 10 mm de long. Et en fait, elle regroupe en son sein des circuiteries qui ont à voir avec la motricité. Et c'est ce qui est ciblé pour améliorer les symptômes parkinsonien, mais à côté, juste à côté, adjacent, hein, des circuits qui ont à voir, ce qu'on appelle les circuits associatifs, qui ont à voir avec la cognition, les fonctions supérieures, et juste à côté encore, des circuits qu'on appelle limbiques, qui ont à voir avec les émotions, la motivation. Voilà. Donc lorsqu'on place une électrode dans cette structure qui est toute petite, il peut y avoir une influence électrique qui va toucher les différents compartiments, et on peut voir apparaître des symptômes qui sont considérés comme des effets secondaires, effectivement, pour ce qui concerne la maladie de Parkinson. Lorsque, par exemple, on place l'électrode dans la région plutôt motrice et qu'on a une influence sur les aspects motivationnels, par exemple déclencher une addiction, hein, ou modifier une addiction. Mais dans d'autres circonstances, et on parlait tout à l'heure de pathologie psychiatrique, un effet secondaire peut devenir un effet tout à fait intéressant. À tel point que dans les troubles optionnel compulsif, hein, extrêmement sévère, résistant à toutes les thérapeutiques, la stimulation du noyau subthalamique, mais cette fois-ci en visant non pas la région motrice, mais la région limbique et associative, hein, des autres circuits, des circuits non moteurs, eh bien, améliore considérablement les symptômes. Vous voyez, donc un effet secondaire pour un patient peut devenir un effet bénéfique pour un autre. Mais il est vrai que c'est cette technique qui nous a permis d'en fait de découvrir tous ces circuits qu'on ne connaissait pas.
Pour essayer de limiter au maximum ces effets secondaires chez les patients qui sont stimulés, on essaye d'utiliser toutes les techniques du numérique qu'on peut avoir sous la main. Et notamment, la première technique, c'est d'utiliser l'imagerie médicale du patient. Donc, on récupère les images du patient, IRM ou scanner, et on développe des outils d'analyse de ces images. Et à partir de l'analyse de ces images, on va construire des outils qui devraient qui permettent d'ailleurs au neurochirurgien de mieux préparer son intervention, c'est-à-dire de mieux savoir où il faut stimuler et par quel chemin passer. Parce que l'enjeu, il est double. Il est un, de stimuler l'endroit qu'il faut stimuler et d'éviter des dommages le long de la trajectoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas un consensus sur l'endroit qu'il faut stimuler. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, ça a été trouvé par le neurochirurgien français, un peu au hasard. C'est une petite structure pour Parkinson, par exemple, qui est grosse comme le bout de mon petit doigt et qui s'appelle le noyau sous-thalamique, qui est en plein milieu du cerveau. Et c'est ce que les neurochirurgiens stimulent aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Mais finalement, il y a certains qui disent, c'est peut-être un petit peu plus à côté, un petit peu plus devant, un petit peu plus derrière. Et c'est ça qui fait que finalement, chez certains patients, il y a des effets secondaires. Donc nous, on va essayer de comprendre tout ça, à la fois pour savoir la région qui fonctionnerait la mieux dans cet environnement anatomique-là. Et puis aussi, mettre dans les mains des chirurgiens des outils qui permettent de mieux préparer, anticiper la procédure chirurgicale.
Les logiciels qui nous permettent de, par exemple, si on prend la technique de stimulation cérébrale profonde, de poser des électrodes à l'endroit le plus pertinent, sont absolument indispensables et sont évidemment perfectibles et nous permettent, nous, neurologues et neurochirurgiens, de poser les électrodes dans des endroits le plus en plus pertinents et d'éviter ce que qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les effets secondaires, c'est-à-dire d'avoir que les effets bénéfiques et ne pas avoir les effets secondaires. D'une part. Donc ça, c'est par rapport à la cible. Mais aussi l'électrode, quand on la descend dans la cible, il faut la descendre de manière sans provoquer de dégâts ou sans faire prendre de risques au patient. Et ces logiciels qui permettent de planifier la chirurgie sont absolument essentiels aussi et perfectibles pour diminuer encore les risques de cette chirurgie.
Les outils, les logiciels qu'on a développés depuis, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé ce projet-là, sont utilisés à Rennes par la neurochirurgienne pour préparer ses patients et puis opérer. Et en plus, on a développé le logiciel qu'on a développé, on l'a installé dans d'autres centres, notamment en France, à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, dans un hôpital en Norvège, à Trondheim, et puis en ce moment, on l'installe au Canada aussi. On voit, et les chirurgiens nous le disent, que ça améliore le placement de l'électrode, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de comprendre justement ces zones, pourquoi ça marche des fois, pourquoi ça marche pas certaines fois. Et donc là, on utilise ce qu'aujourd'hui on appelle l'intelligence artificielle, là, les méthodes d'intelligence artificielle, où l'idée c'est de récupérer toutes les données des patients qui ont été implantés, qui ont été opérés, si vous voulez, comment ils étaient avant la stimulation, comment ils sont après la stimulation. On sait aussi, parce que l'imagerie médicale peut nous le dire, où on a mis l'électrode, et donc on va corréler l'endroit qui a été stimulé chez chaque patient et les résultats cliniques. La différence globalement entre comment il était après et comment il était avant. Et ça, on le fait pour tous les patients qu'on a, les 200, 300, 400 patients qu'on a. Et l'objectif, c'est d'en retirer des règles pour dire sur cette population qu'on a opérée, en général, qu'est-ce que ça donne ? Ou sachant un profil de patient, quelles sont les stratégies qui ont donné les meilleurs résultats ? Et c'est là où l'intelligence artificielle nous aide. On va, en analysant les données, prédire les résultats pour un nouveau patient. La plateforme Immersia, elle est pour faire des environnements virtuels dans lesquels on s'immerge, mais à l'échelle réelle, et on marche dans ces environnements-là. Donc c'est souvent un chantier de fouilles ou une villa gallo-romaine, on va se balader dedans, ou dans l'autre projet qu'on a, c'est une salle d'opération virtuelle. Pour le projet de stimulation cérébrale profonde, donc on crée un patient virtuel 3D, donc à partir des images médicales du patient, on récupère son IRM, son scanner, on crée un patient 3D virtuel, et le chirurgien, la chirurgienne, parce qu'à Rennes c'est une femme qui est neurochirurgienne et qui fait ses opérations, elle utilise ce patient virtuel 3D pour sélectionner là où elle doit mettre son électrode et par où elle va passer.
Dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde, on a été parmi les premiers au monde à l'utiliser, puisque c'est une invention française. On a participé, on est parmi les premières équipes à mettre en évidence des circuiteries non motrices dans des zones que l'on pensait n'être que motrices, en particulier dans le domaine des émotions, de la motivation, et ce qui a permis de développer des indications pour améliorer des troubles psychiatriques, par exemple, et de mieux comprendre aussi d'un point de vue fondamental la circuiterie des émotions et de la motivation chez l'homme. Et cela avec l'appui de nos collègues de l'INSERM, en particulier de l'équipe de Pierre Janin, et qui ont pu nous donner des éléments d'imagerie pour supporter nos hypothèses.
If life starts approximately a billion years ago, we will have to wait 400,000 years to see the aberration of the first nerve cells. This is where life as we know it begins. Brains in formation of only a few milligrams. It's not possible to determine any sign of intelligence yet. It acts more as a reflex. One neuron, you're alive. Two neurons, you're moving. And with movement, interesting things begin to happen. Animal life on Earth goes back millions of years, yet most species only use 3 to 5% of its cerebral capacity. But it isn't until we reached human beings at the top of the animal chain that we finally see a species use more of its cerebral capacity. 10% may not seem like much, but it's a lot if you look at all we've done with it.
Oui, c'est un océan qui est devant nous. Et là, on dispose ces dernières années de vraiment des techniques d'exploration du cerveau qui sont toutes nouvelles, hein, et qui ouvrent encore d'autres océans, en particulier des techniques d'analyse des connexions, mais en dynamique. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, on est capable de voir, en particulier avec une technique qui s'appelle l'EEG haute résolution. Et il se trouve que Rennes est assez précurseur dans cette affaire avec l'équipe de Fabrice Wendling au LTSI. Et donc ces techniques-là permettent d'observer le cerveau en fonctionnement et à la milliseconde près. Et donc ça ouvre un océan devant nous, comme je le disais, parce qu'en fait on s'aperçoit de plus en plus qu'on ne connaît pas bien, quoi. Voilà, alors de là un jour, bien sûr on avance, hein, pas à pas, mais de là à comprendre en totalité le fonctionnement cérébral et de pouvoir schématiser l'ensemble, modéliser l'ensemble, ça je crois que c'est une hérésie, c'est qu'on n'y arrivera jamais.
Jusqu'à aujourd'hui, souvent, on faisait la connaissance, on observait un phénomène, on émettait une hypothèse, un modèle, et on validait ce modèle avec d'autres données qu'on acquérait. Aujourd'hui, avec les méthodes qui sont en train de sortir, que le machine learning, le deep learning et l'intelligence artificielle, ce qu'on dit, l'apprentissage profond avec les réseaux de neurones artificiels, on n'a pas de modèle, donc on n'a pas de modèle explicite. Donc en fait, on part des données et on essaye de prédire sans avoir un modèle explicite. Ce modèle-là, il est implicite dans le réseau de neurones qui apprend, hein, et on ne pourra jamais, enfin, aujourd'hui, on n'arrive pas à l'extraire de ce réseau de neurones, c'est trop compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que c'est des méthodes qui sont très à la mode, c'est que ça nous permet d'aller plus loin sans comprendre véritablement comment ça se passe. Il y a eu des gros projets autour de la compréhension du cerveau. Il y a un gros projet européen là, qui a essayé de trouver les modèles qui expliqueraient le fonctionnement global du cerveau. Et en fait, ils reviennent aussi, eux, à des approches type machine learning, apprentissage à partir des données, où peut-être que finalement, ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, apprendre à partir de données, va nous permettre de revenir et de définir des hypothèses qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement du cerveau sans avoir un modèle explicite dans un premier temps. Est-ce qu'on va réussir à avoir un modèle complet du cerveau ? Ben, on y avance petit à petit, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on est dans cette direction-là où on avance par vagues, où on émet des hypothèses, on essaie de les vérifier, puis aujourd'hui on est plutôt sur de l'analyse de données sans hypothèses, et je pense qu'on va avancer comme ça en analyse de données, hypothèse, analyse de données, hypothèse.
Alors le cerveau, ou augmenter ou améliorer. Ça c'est une stupidité, ça n'existe pas. Voilà. Il faudrait déjà qu'on comprenne ce qui se passe quand il fonctionne normalement avant de pouvoir l'augmenter ou d'y songer un jour. En revanche, l'améliorer quand il ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire le réparer, Ça, c'est notre travail, oui, oui. Ça a du sens. Mais encore une fois, l'augmenter, c'est une stupidité. Enfin, c'est les gens qui disent cela sont des gens qui n'ont jamais vu un cerveau qui dysfonctionne. Voilà. Donc il faudrait bien qu'ils passent un petit tour en médecine, et puis après, ils réfléchiront. Voilà.
Ces modèles qui découpaient le cerveau en petites tranches, là, c'est vraiment des modèles anatomiques, hein, qui sont plutôt sur la forme, la morphologie du cerveau. Et on continue à les utiliser pour étudier la forme du cerveau, l'anatomie, la morphologie, mais à différents niveaux d'échelle, hein, à des échelles très macroscopiques, les grosses structures, jusqu'à les couches de neurones. Ça, on va continuer à le faire avec la microscopie, avec l'imagerie médicale de résolution plus fine. Donc ça, sur la structure, on va continuer à avoir ces approches-là. Par contre, c'est sur la fonction. Le cerveau, c'est la dualité structure-fonction. Et c'est sur la fonction qu'on est plutôt dans des approches itératives. On essaye de comprendre la relation structure-fonction, avec notamment l'image en IRM, l'image de diffusion, la tractographie, qui image les autoroutes globalement de neurones dans le cerveau, hein, qui véhiculent l'information d'une zone fonctionnelle à une zone fonctionnelle. C'est véritablement des autoroutes. Et donc là, on a une information structurelle qui nous permet de comprendre ces autoroutes. Et maintenant, quelles sont les fonctions qui sont au bout de ces autoroutes? Bah, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a de l'imagerie qui nous aide, comme l'imagerie fonctionnelle, par exemple, hein, l'IRM fonctionnelle, la magnéto-encéphalographie. Mais il y a encore des territoires, à la fois il y a des territoires qui ne sont pas explorés par ces approches-là parce que c'est des territoires très fins ou très profonds dans le cerveau, comme les ganglions de la base qui sont les structures qu'on stimule pour Parkinson en stimulation cérébrale profonde. Et puis il y a aussi ce qu'on découvre progressivement, c'est que finalement le cortex, le cerveau, il fonctionne en réseau, hein. Avant on parlait de tâches, une zone fonctionnelle c'était un endroit, maintenant on dit... Une fonction cérébrale, c'est un réseau de zones et de régions qui fonctionnent en même temps. Et puis, on est en train de dire aussi que parfois, peut-être que les zones sont multimodales, donc il y a plusieurs fonctions dans une seule zone. Peut-être même qu'un neurone lui-même peut être multimodal. Donc, on se rend compte que c'est peut-être plus compliqué que les premiers modèles qu'on avait. Mais c'est comme tout le temps, en recherche, plus on avance, moins on sait presque, hein.
Non, l'interface cerveau-machine, là encore, pour améliorer des circuits cérébraux qui dysfonctionnent dans telle ou telle pathologie, ça a du sens, bien sûr. Voilà. Mais pour la population générale, ça n'a aucun sens. Il faut quand même avoir en tête tout de même qu'un cerveau, ça pèse 1,3 kg, c'est à 37 degrés. Hein. Et si vous voulez imiter ce qu'il fait, essayer d'imiter ce qu'il fait en termes de mémoire, d'analyse de données, etc. Il vous faut des tonnes et des tonnes de matériel informatique, des serveurs qu'il faut refroidir. C'est insensé. Donc, actuellement, dire qu'on imite le cerveau humain, on l'imite de manière extrêmement pâle. Et en plus, au détriment terriblement de l'environnement.
Les interfaces homme-machine, alors il y a des systèmes qui fonctionnent. Aujourd'hui, on est sur des choses très basiques. Hein. Aujourd'hui, sur les interfaces homme-machine, on arrive à détecter des fonctions en temps réel avec des capteurs de type électroencéphalographie, des capteurs assez simples. On arrive à détecter des fonctions de base et donc on arrive à commander la machine sur des fonctions de base. Sur des fonctions de base de motricité, de reconnaissance, de discussion, enfin voilà, bouger les regards, trouver les lettres. On a des, je vois par exemple en réhabilitation, la robotique pour la réhabilitation, donc faire travailler les zones cérébrales qui sont lésées par des AVC, par exemple des accidents vasculaires cérébraux. Il y a des travaux qui se font comme ça en lien entre directement le cerveau et la robotique. Hein. Nous, par exemple, on commence à travailler dessus aussi. Il y a une thèse qui va commencer où on va essayer de comprendre l'activité cérébrale du cerveau du chirurgien qui opère, par exemple. Donc ça, c'est aussi dans cette optique-là où finalement, on peut comprendre l'activité cérébrale, pas simplement quand elle est lésée, hein, mais aussi quand elle fonctionne bien pour piloter un système. Donc là-dessus, on avance avec des capteurs qui sont meilleurs et une connaissance du cerveau qui est meilleure aussi. Et sur des traitements, là, la thèse qui va commencer, c'est aussi, encore une fois, de l'intelligence artificielle qui va être utilisés pour faire cette analyse des signaux en BCI, comme on dit, en Brain Computer Interface. C'est l'homme augmenté, hein. Oui, évidemment, les enjeux sont des deux côtés. Ils sont d'abord éthiques, on le sent bien. Quand je vous raconte l'histoire du patient qui se met à jouer au casino alors qu'il ne faisait pas avant, on commence à se dire, on touche à des fonctions cérébrales profondes qui sont cognitives, qui sont psychologiques, qui sont c'est impressionnant sur cette capacité que la technologie peut avoir pour stimuler des zones lésées, mais aussi des zones finalement qui sont pas lésées et qu'on va les provoquer. Il y a, par exemple, si on recherche sur Internet, il y a des compagnies qui vendent des petits systèmes qui stimulent le cerveau pour quand on court, pour courir un petit peu plus loin, pour faire travailler plus et combattre un peu la motivation qu'on peut avoir ou le manque de motivation qu'on peut avoir. Donc on est à la limite et la question éthique se pose vraiment. Et il faut se la poser. Alors l'augmentation de l'homme, de toute façon, on y vient doucement. On est augmenté dans tout ce qu'on fait avec aujourd'hui. Ouais, avec tout, c'est ça, les téléphones, les ordinateurs, on a de l'augmentation, qui soit en mémoire, qui soit en rapidité, qui soit en traitement d'informations. Là où on est un peu plus choqué, c'est quand on va aller toucher le corps pour avoir cette augmentation. Alors toucher, c'est stimuler soit directement, soit indirectement, hein, parce qu'on peut stimuler d'extérieur aussi le cerveau. Mais finalement, l'augmentation, on y est presque. Donc, je pense qu'elle est... Alors, je pense qu'on va y aller, évidemment, dans cette augmentation de l'homme. Après, le contrôle éthique va être indispensable. Le contrôle éthique va être indispensable, clairement. Bon, moi déjà, je fais pas des neurosciences, hein, je suis beaucoup plus modeste que ça. Je suis un ingénieur qui utilise les ordinateurs pour aider les chirurgiens. Donc c'est très simple. Je touche un peu par certains projets au fonctionnement du cerveau et j'essaie de m'approcher vers la compréhension. Mais je sens qu'à un moment, là, j'y suis peut-être déjà, là, je vais atteindre les limites de ce que je peux faire et je vais sortir de mon métier. Donc je vais laisser la main aux neurologues et ce que je fais déjà et aux scientifiques des neurosciences. Après, sur les nanotechnologies, bon, c'est différent. Elles auront un impact de toute façon dans plein de domaines, hein, à la fois pour mesurer, à la fois pour stimuler avec des nanostimulateurs. Il y a aussi des nanorobots. Enfin, on peut parler de la robotique, il y en a beaucoup en chirurgie. Moi, je m'intéresse de plus en plus à la robotique chirurgicale. On est en train de construire des nanorobots qui iraient à un endroit pour traiter la cellule, peut-être. Donc, oui, bien sûr, de réduire en échelle les instruments qui mesurent ou qui stimulent. Oui, bien sûr, oui, ça va évoluer pas mal dans cette direction-là. Je ne sais pas jusqu'où, mais oui, ça va évoluer.